Gloire à Dieu. Alors, ce matin, un peu quelques minutes avant le culte, nous avons un peu prié ensemble pour cette réunion de ce matin. Et quelqu'un, en priant, qui avait l'esprit prophétique, a annoncé déjà le message de ce matin, en fait le titre du message. Ce matin, j'aimerais parler de entrer dans le repos de Dieu. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 3, à partir du chapitre 3. On va lire 3:11 à 4:11. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'a un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, parce qu'ils ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Dans ce passage ici, il est question de repos. ou de sabbat. Quelle est la signification de ce mot, sabbat ou repos? Le mot repos ici, on pourrait dire à quatre sens. Il y a tout d'abord le repos hebdomadaire de son travail, à l'image de Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve en six jours, et le septième jour se reposer. Ça, c'est le premier sens du repos, le repos hebdomadaire de son travail. Il y a un deuxième repos dont il est fait mention ici. C'est le repos de l'esclavage d'Égypte. Vous avez été esclave pendant plus de 400 ans, dit Dieu à Israël. Eh bien, je vais vous donner un repos dans une nouvelle terre. Ensuite, le troisième repos, c'est le repos de l'esclavage du péché et du diable par la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Et enfin, le dernier repos, c'est le repos parfait dans l'éternité. C'est ce que nous allons considérer ce matin. Entrer dans le repos de Dieu. J'ai donc dit, tout d'abord, il y a le repos hebdomadaire de son travail. Il est clair, à partir de la parole de Dieu, dans Genèse 2, verset 15, que c'est Dieu lui-même qui a institué le travail. Nous lisons ceci, dans Genèse 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Dieu lui-même a institué le travail. Bien sûr, ce qui est venu après la chute, c'est la peine et la douleur qui accompagnent le travail. Donc le travail, ce n'était pas une malédiction, mais c'était dans l'ordre normal des choses. Dieu dit, donc Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. On voit très bien aussi, lorsque nous lisons 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 12, que Dieu a en horreur la paresse, l'oisiveté et le désordre. Et l'apôtre Paul était triste lorsqu'il constatait que certains vivaient dans le désordre. Et alors voici ce qu'il leur dit dans 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Donc Paul avait le droit d'être entretenu en quelque sorte par l'Église. Mais il a dit, il a voulu donner un exemple, donc aux Thessaloniciens, en travaillant de ses propres mains, non seulement pour lui-même, mais aussi pour aider les autres. Verset 10, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Donc nous voyons ici, c'est clair que Dieu a en horreur la paresse, l'oisiveté et le désordre. Paul le dit clairement. Donc nous disons, Dieu a institué le travail. La peine et la douleur sont venues après, lorsque l'homme avait péché. Et donc Dieu avait dit à l'homme qu'il gagnerait son pain à la sueur de son front. La sueur est venue après. Donc le travail était tout à fait normal. Dieu déteste la paresse. Cependant, il est aussi clair qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Je pourrais paraphraser Jésus en disant que le travail est fait pour l'homme et non l'homme pour le travail. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Certains diraient que certaines personnes, par exemple, ne vivent que pour le travail. Ils travaillent continuellement, ils ne prennent jamais de vacances, de loisirs. D'autres glorifient le travail au point de dire qu'il n'y a que ça. Et lorsqu'on étudie certaines cultures, on voit que dans certaines cultures, le travail, c'est tous les jours. Et Israël a été l'une des premières nations où on voit qu'il y avait un jour de repos. Et Dieu voulait inculquer à Israël dès le début qu'il devait se souvenir que ce n'était pas le travail qui pourvoyait à leurs besoins, mais que c'est Dieu lui-même qui pourvoit à leurs besoins. Ce n'est pas le travail qui pourvoit aux besoins de l'homme, mais c'est Dieu. Nous avons la preuve aujourd'hui. À travail égal, est-ce que c'est nécessairement salaire égal? Non, hein? Il y a des gens qui travaillent comme des esclaves et qui n'obtiennent rien du tout. Et d'ailleurs, nous lisons parfois dans les journaux et même on voit à la télé, même aujourd'hui, il y a encore de l'esclavage. Par exemple, des gens qu'on fait venir des pays sous-développés pour venir en Europe et on domine ces gens. On les maintient dans la peur d'être déportés, d'être expulsés. Et ces gens-là travaillent 7 jours sur 7. Il y en a dans des ambassades en France et dans d'autres pays en Europe. Et donc, ce n'est pas le travail qui pourvoit aux besoins de l'homme, mais c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de l'homme. Et l'homme... Donc le travail est fait pour l'homme, mais non l'homme pour le travail. On n'est pas fait que pour travailler. Le Seigneur voulait inculquer à Israël qu'il devait se rappeler que la santé qu'ils avaient pour travailler, que c'était Dieu qui leur donnait cette santé-là. Il devait se rappeler que tout vient de Dieu et aussi qu'ils devaient donner du temps à leur Dieu. Et Dieu met même dans notre corps une sorte d'horloge. Et si on ne respecte pas cette horloge, eh bien parfois on se retrouve à l'hôpital. Et donc on est obligé de prendre ce repos forcé. Et Dieu avait institué un repos hebdomadaire, un repos non seulement hebdomadaire pour l'homme, mais il avait aussi institué même un repos pour la terre. Qu'il allait, où ils allaient entrer. Et puisque le peuple d'Israël n'avait pas respecté ce repos de la terre, donc il devait cultiver la terre pendant 6 ans, et la 7e année, la terre devait se reposer. Et comme ils n'avaient pas respecté cela, eh bien Dieu allait les chasser de la terre pendant le même nombre d'années qu'ils n'avaient pas respecté ce repos, c'est-à-dire 70 ans, 70 ans d'exil, et ensuite Dieu les a fait revenir. Donc Dieu dit qu'il faut un repos hebdomadaire. Et est-ce que Dieu avait besoin de repos lorsqu'il a créé le ciel et la terre en six jours? Non. Il n'avait pas besoin de repos, mais il voulait montrer à l'homme qu'il fallait un repos. Dieu voulait montrer que la chose la plus importante, ce n'était pas le travail, mais c'était Dieu qui devait avoir la première place. Et nous l'avons chanté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Je me rappelle toujours, il y a bien des années de cela, il y avait quelqu'un que j'essayais de gagner au Seigneur. Et je l'invitais à l'église. Et ce frère, chaque fois qu'il devait venir à l'église, il trouvait toujours une excuse. Il disait, ah, j'ai rendez-vous pour un travail. Et j'ai dit, mais c'est bizarre que ce rendez-vous tombait toujours au moment de l'église. Et je me rappelle toujours à chaque fois, ce frère, quand il revenait à moi, j'ai dit, alors, comment ça a été le rendez-vous? À chaque fois, c'était l'échec. Et ça n'allait jamais. Cet homme n'avait pas compris ce passage que nous avons chanté. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Donc voici le premier repos dont il est question ici. Le repos hebdomadaire pour le Seigneur. Il n'y a pas que le repos hebdomadaire. Dans ce repos hebdomadaire, on pourrait dire aussi, on pourrait ajouter le repos quotidien. Hein? Après avoir travaillé, après on rentre à la maison, on mange et puis on se repose. C'est aussi important. On dort, notre corps récupère. Le deuxième repos dont il est question ici, et c'est là où il est question de colère. Dieu dit, le premier verset que nous avons lu, Hébreux 3, verset 15, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Imaginez, pendant plus de 400 ans, le peuple d'Israël souffrait. Il travaillait 7 jours sur 7 en Égypte, non pas pour leur propre compte, mais pour le compte de leur maître. Et donc, ils travaillaient dur, très dur, sans voir vraiment le résultat de leur travail. Et ils ont crié à Dieu. Dieu a eu pitié d'eux. Et Dieu leur a envoyé un libérateur en la personne de Moïse. Il dit, Moïse, va. Délivre mon peuple d'Égypte. Et voilà qu'effectivement, avec bien sûr, après quelques hésitations, Moïse a accepté cette mission pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Donc, Moïse s'exécute et Dieu, après avoir accompli plusieurs miracles, les fameuses plaies d'Égypte, Israël a vu les miracles de Dieu. Et Dieu les a pris, il les a fait traverser la mer Rouge, et maintenant, ils traversent le désert pour entrer dans la terre promise. Mais avant d'entrer dans cette terre, Moïse envoie 12 espions, ou plutôt 12 explorateurs, 12 éclaireurs, ou quelqu'un dirait 12 journalistes, pour explorer le terrain, pour voir vraiment comment est le terrain. Et ils ont vu, comme Dieu leur avait dit, que c'était un pays riche où coulait le lait et le miel. Mais ils ont ajouté aussi leur perspective des choses. Ils ont dit, c'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce pays-là, il y a aussi des géants. Et à leurs yeux, nous, on n'est que des sauterelles. Et donc, ce n'est pas possible d'entrer dans ce pays-là. Et là, tout le peuple s'est joint à ces mauvais rapporteurs et ils ont murmuré contre Moïse. Et ils ont dit, trouvons-nous un autre leader pour faire quoi? Pour retourner en Égypte. Incroyable. Ils ont oublié toutes les peines qu'ils avaient en Égypte et maintenant ils veulent retourner en Égypte. Mais heureusement, il y avait Josué et Caleb qui ont dit, c'est vrai qu'il y a des géants et dans cette terre. Mais Dieu nous a promis cette terre. Et si Dieu nous a promis cette terre, eh bien, on peut la conquérir. D'une certaine façon, le mal était fait et le peuple a murmuré contre Moïse et voulait lyncher Moïse. Et c'est là que Dieu s'est fâché. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu s'est fâché, il a dit, n'ont-ils pas vu mes miracles? N'ont-ils pas vu mes prodiges? Ont-ils tout oublié de ce que j'ai fait pour eux? Ont-ils oublié comment, à chaque difficulté, j'étais là pour leur donner la victoire? Ont-ils oublié comment, par ma puissance, eh bien, je les ai fait, eh bien, arriver là où ils se trouvaient? Et Dieu dit, je vais les éradiquer. Je vais les éliminer de ma face. Et c'est là que Moïse intervient, intercédant pour le peuple, disant, Seigneur, s'il te plaît, ne fais pas cela. Les Égyptiens vont dire que tu n'étais pas capable de les amener jusqu'à cette terre promise. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié. Et là, Dieu va dire à Moïse, d'accord, je vais avoir pitié, mais je vais avoir pitié de la génération qui est en dessous de 20 ans. Ceux-là dont les autres disaient qu'ils n'étaient pas capables d'arriver dans cette terre, eh bien, eux, ils vont mourir. Ils vont mourir dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, eh bien, vous allez passer 40 ans dans le désert. Donc, cette génération-là ne verra pas la terre promise, excepté pour Josué et Caleb. Eux, ils m'ont honoré. Et donc, voilà le contexte de ce passage lorsque Dieu dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans ce pays où coule le lait et le miel. Ils ne vont pas pouvoir se reposer de leur esclavage. Ils n'ont connu que l'esclavage toute leur vie. Eh bien, ils ne connaîtront que ça. Par contre, leurs enfants, ceux-là âgés de moins de 20 ans, ils pourront entrer dans ce repos. Mais maintenant, ce repos en question, ce repos dans cette terre promise, n'était que la figure, n'était que la préfiguration d'un autre repos, d'un autre sabbat. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Verset 3, je vais lire à partir du chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Cette promesse subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlera pas après cela, d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un autre repos réservé. Et ce repos-là, c'est de ce repos-là que j'aimerais parler surtout ce matin, qui a deux aspects. Le premier, c'est un repos déjà maintenant. Et puis, il y a un repos après. Le repos de maintenant, c'est le repos, donc le repos qui est réservé au peuple de Dieu, c'est le repos de l'esclavage du péché et du diable par la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Tant que tu vis dans la rébellion, il ne peut y avoir de repos. Tant que tu vis dans le péché, il ne peut y avoir de repos. Ésaïe 48, 22 nous dit, « Il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. » Ésaïe 57, 21 répète la même chose. « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Comment peux-tu vivre en paix lorsqu'il y a le sentiment de culpabilité, lorsqu'il y a le péché? Pourquoi est-ce que lorsque nous invitons les gens du monde à venir à l'église, ils ont peur? Parce que leur conscience n'est pas tranquille. Ils fuient Dieu. Pourquoi est-ce que les gens disent que Dieu n'existe pas? C'est une idée qu'ils ne veulent pas admettre que Dieu existe, parce que si Dieu existe, il faut lui obéir. Et donc les hommes fuient. Et tant qu'ils fuient, eh bien, ils ne sont pas en paix. Il ressemble à Caïn quand il avait tué son frère. Il était en errance. Il était en vagabondage. Il courait partout. Tant que tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, eh bien, il n'y a pas de paix. Il n'y a que celui qui connaît Christ qui a vraiment la paix. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, étant rendu juste, étant déclaré juste par notre foi en Jésus-Christ, eh bien, nous avons la paix avec Dieu. Donc, nous ne fuyons plus. Au contraire, nous recherchons la présence de Dieu. Nous recherchons la présence de Dieu. Et c'est ce qui explique notre présence ce matin. Nous avons soif de Dieu. Donc, nous recherchons sa présence. Et donc, nous avons ce repos avec Dieu. Le repos avec Dieu, c'est aussi se décharger. Donc, non seulement de son fardeau de culpabilité, de péché, c'est aussi être, par la même occasion, être délivré de la condamnation. Romains 8, verset 1. Paul écrit toujours, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Lorsque tu sais qu'il n'y a plus de condamnation, eh bien, tu es en repos. Tu es en paix. Tu as la conscience libre, le cœur léger. Entrer dans le repos de Dieu, c'est aussi arrêter de lutter avec ses propres forces et simplement se reposer en confiance sur Dieu pour obtenir la victoire. Amen. Dieu disait à Israël, dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Le verset plus haut, il disait, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. N'y a-t-il pas un repos à cela? Il y a le repos. Je ne combats pas, mais c'est le Seigneur qui combat pour moi. Je me repose sur le Seigneur. Je ne combats pas avec mes propres forces, mais c'est l'Éternel qui combat pour moi. Le repos du Seigneur, c'est être accueilli dans la présence de Dieu après le travail accompli, la mission accomplie. Entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu, c'est là où il y a la foi. Sans la foi, il ne peut pas y avoir de repos. Et c'est pour ça que les Israélites n'ont pas connu le repos. Parce qu'ils étaient dans la rébellion. Entrer dans le repos de Dieu, c'est aussi avoir un cœur rempli de gratitude et de louange. Vous voyez, chaque fois que les Hébreux, les Israélites, rencontraient un obstacle dans le désert, au lieu de se rappeler ce que le Seigneur avait fait pour eux, ils murmuraient contre Dieu, ils murmuraient contre Moïse. Or, s'ils avaient un cœur reconnaissant, plein de gratitude, ils auraient cette même confiance qu'avaient Josué et Caleb. Le Dieu qui nous a conduits jusqu'ici aujourd'hui nous conduira encore, nous donnera la victoire. Celui qui a un cœur reconnaissant, eh bien, vit dans le repos de Dieu. Celui qui a un cœur reconnaissant, eh bien, à la paix de Dieu, la joie de Dieu. Le Seigneur est là. Il est toujours en contrôle. Le repos de Dieu, c'est savoir que Dieu a toujours le contrôle de toutes choses. C'est arrêter d'essayer de contrôler les choses par soi-même. L'homme ne peut pas contrôler les choses. Le repos de Dieu, c'est arrêter de s'appuyer sur l'homme, sur sa famille, sur je ne sais qui. Sur ses relations. Et là, on a souvent des déceptions. Mais celui qui se repose sur Dieu ne connaît pas de déception. J'ai grandi, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, disait David. Entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu, c'est arrêter de se rebeller contre Dieu. Arrêtez de dicter à Dieu ce qu'il doit faire, mais faire confiance à sa sagesse. Seigneur, tu connais tout. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Et si tu fermes une porte ici, c'est que tu as déjà ouvert une porte là-bas. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est ce repos de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, de l'esclavage de la pensée de ce siècle. Mais avoir la pensée de Dieu. Avoir la pensée de Dieu. C'est s'appuyer sur Dieu. Comme Abraham s'est appuyé sur Dieu. Dieu dit, quitte ton pays, quitte ton patrie. Va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham est parti sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qui l'avait appelé. Alléluia. Il s'est appuyé sur Dieu. Dieu connaît le chemin. Dieu connaît là où il m'appelle. Et je lui fais confiance. Ça, c'est le troisième, le quatrième repos qui est proche du troisième repos dont nous avons mentionné. C'est le repos parfait dans l'éternité. Donc, il y a un repos de Dieu que nous pouvons déjà goûter maintenant. Mais ce repos n'est pas parfait. Hein, ce repos n'est pas parfait. De temps en temps, nous sommes assaillis par des inquiétudes. Et Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, il y a de temps en temps encore des attaques. Il y a le diable qui rôde autour de nous, comme un lion rugissant. Il y a aussi le travail qui n'est pas encore achevé. Nous sommes encore dans la course, parce que le repos, c'est après le travail. Donc, nous sommes encore au travail. Nous sommes encore au travail. Nous sommes encore au combat. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et donc nous sommes au travail. Nous sommes au combat. Nous sommes au combat. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Mais le combat est réel. Le combat est réel. C'est pas parce que c'est le Seigneur qui combat pour nous que le combat n'est pas réel. Le combat est réel. Et nous devons vraiment exercer la foi. Nous devons exercer le courage. Nous devons exercer la patience. Nous devons exercer l'obéissance. De dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est pour ça que je dis ce repos n'est pas encore tout à fait parfait. Mais il y a le repos parfait. Ça, c'est le repos après le travail accompli. Hein, c'est comme on a fini sa journée, on est content. Dès qu'on fait à la maison, on a quitté les bouchons, on a traversé les bouchons de la ville et on arrive chez soi. Et puis on se repose, on est dans le canapé, on a fait sa journée. Et donc c'est ça le repos. Après le travail accompli, après les persécutions, après les incompréhensions, après les trahisons, après les moments que nous n'avons pas compris au cours du chemin, nous avons accompli notre tâche. Comme il est dit au sujet de David, après avoir accompli sa destinée, eh bien, il est entré dans la présence de Dieu. Donc ça, c'est le repos. Le repos, ce repos-là, c'est aussi le repos au moment où on est accueilli dans la présence de Dieu. Et où l'on reçoit la récompense, le couronnement. Lorsque le Seigneur nous dit, viens, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confie de plus grandes. C'est ce repos-là. Le repos où on reçoit la récompense, où on reçoit la couronne. Et ce repos où on est débarrassé de la présence de Satan. Il est jeté dans l'étang de soufre. Et on est vraiment... On n'a plus sa présence. On n'a plus les combats. On n'a plus les luttes. Mais on est là, nous réjouissant de la présence de Dieu. C'est la délivrance totale. C'est la délivrance parfaite. Et donc, c'est pour cela aujourd'hui que nous travaillons, que nous nous battons pour entrer dans ce dernier repos de Dieu. Alors, que faut-il faire maintenant? Maintenant, apprenons à vivre dans la confiance au Seigneur, dans l'obéissance, dans la fidélité et pas dans la rébellion. Parce que celui qui est rebelle ne peut pas connaître la paix. Celui qui est rebelle ne peut pas connaître le repos. Il est toujours en lutte. Il est toujours en lutte. Mais celui qui a une conscience tranquille, eh bien, même s'il est accusé, il est en paix. Même s'il est accusé, il est en paix. Même si on dit n'importe quoi sur lui, parce qu'il a la conscience tranquille. Il est déjà dans le repos de Dieu. Il est déjà dans le repos de Dieu. Et il n'attend que le repos parfait. Le repos est dans la confiance en Dieu. Le repos est dans l'obéissance. Et c'est cette confiance que rien ne peut m'arriver sans la permission de Dieu. J'appartiens à Dieu. Et donc, je suis dans ce repos-là. Je suis dans cette confiance. Je suis dans cette assurance. Je suis dans la présence de Dieu. Donc, le repos, c'est ce que nous trouvons dans la présence de Dieu. Tant qu'on est éloigné de Dieu, il n'y a pas de repos. On est tourmenté. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, eh bien, il y a ce repos. Et comme je dis, il y a un repos maintenant et puis il y a un repos plus loin. Donc, nous goûtons aujourd'hui la présence de Dieu lorsque nous sommes dans la louange, lorsque nous sommes en prière, lorsque nous remettons tout entre les mains du Seigneur, lorsque nous déposons tous nos fardeaux au Seigneur, nous avons ce repos-là. Mais nous savons, comme dit Paul, aujourd'hui nous voyons comme au travers d'un miroir, d'une manière imparfaite, d'une manière trouble. Nous voyons le Seigneur d'une manière trouble. C'est comme par exemple aujourd'hui, quand je vous vois, je vous vois un peu de manière trouble, comme je suis déjà un peu myope. Mais quand je mets mes lunettes, je vois plus clair. Donc, c'est la même chose. À la fin du temps, j'aurai les lunettes du Seigneur, ou plutôt je n'aurai plus les lunettes, j'aurai les yeux du Seigneur. Et à ce moment-là, je verrai de manière claire. Donc aujourd'hui, nous voyons d'une manière trouble, d'une manière imparfaite. Et le jour viendra, eh bien, nous serons réellement dans la présence de Dieu. Et là, ce sera parfait. Ce repos n'est pas parfait parce que je me rappelle, il y a 2 semaines de cela, j'avais pris une semaine qui n'était pas vraiment pour un véritable repos. Comme il y a 2 semaines, on avait une semaine d'évangélisation à l'église de Terbeek. Alors, j'avais pris une semaine. Et pendant cette semaine-là, bien sûr, je me suis habitué à me lever un peu plus tard. Et donc, la semaine qui a suivi, quand j'ai ouvert mon travail, c'était beaucoup plus dur de se lever tôt le matin. Donc, vous voyez, c'est un repos qui n'est pas parfait. Donc, il y a un repos. Ce repos aujourd'hui que nous vivons n'est pas parfait parce que, par exemple, on peut prendre un week-end pour se reposer, mais et puis le lundi on doit reprendre le travail, on s'est rendu compte, ah, finalement on ne s'est pas vraiment reposé comme on devait se reposer. Et donc, mais il faut reprendre le travail. Ou bien le week-end était tellement super qu'on aurait aimé prolonger ce week-end. Mais il faut reprendre le travail. Donc, le repos sur terre existe, mais il n'est pas parfait. Mais nous attendons un repos parfait dans l'éternité. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Épître nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre repos. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, verset 10, chapitre 4, verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans le même exemple de désobéissance. Est-ce que nous voulons entrer dans ce repos? Entrer dans ce repos où nous allons nous reposer de nos œuvres. Je m'appelle au tout début, je veux dire avant ma carrière, j'ai connu une ou deux années où vraiment je ne travaillais pas, je faisais des petits boulots. Et alors quand les gens parlaient de vacances, ça me paraissait bizarre. Ben, je n'ai jamais encore travaillé, on me parle de vacances. Vacances de quoi? Ça n'avait pas de sens. C'est quand vraiment j'ai commencé à travailler, ah oui, les vacances à ce moment-là avaient un sens pour moi. Et donc pour nous aussi, le repos aura un sens si nous travaillons aujourd'hui pour le Seigneur. Et là, nous pourrons nous reposer de nos œuvres. Dieu veut que nous travaillions pour lui. Dieu veut que nous soyons obéissants. Donc, soyons obéissants où nous pouvons déjà goûter ce repos du Seigneur en n'essayant pas de faire les choses avec nos propres forces, en nous déchargeant déjà aujourd'hui des fardeaux du péché, de quel que soit le fardeau, les problèmes, les difficultés. Remettons-les au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui peux m'aider à sortir de là. C'est toi qui peux me donner la victoire. On peut déjà entrer dans ce repos, même imparfait. Aujourd'hui même, il y a aujourd'hui déjà un repos. Et puis il y a le repos extraordinaire, parfait, dans l'éternité. Donc, soyons fidèles dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée et marchons en obéissance à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci en tout cas, Pasteur Martin. C'était vraiment un exposé superbe au niveau du repos.